Bonsoir. Avec des confrères journalistes, nous analysons les grands faits qui ont dominé l'actualité cette semaine. Pour aujourd'hui, deux thèmes ont été retenus pour vous, à savoir le projet de budget 2017 a été jugé recevable. Le Premier ministre Bruno Tshibala a présenté mercredi 31 mai dernier à l'Assemblée nationale le projet de loi des finances pour l'exercice 2017, évalué à plus de 11 000 milliards de francs congolais, soit près de 8 milliards de dollars américains. Bruno Tshibala a souligné que 1,169 milliards de francs congolais sont prévus dans ce budget pour l'organisation des élections prévues pour cette année. L'Union européenne a de nouveau pris lundi 29 mai 2017 des sanctions contre 9 personnalités congolaises. Ces personnalités sont listées pour avoir contribué à des actes constituant des graves violations de droits de l'homme en RDC, soit en les planifiant, les dirigeant ou en les commettant. C'est notre deuxième et dernier thème de ce soir. Participe au débat Jean-Jeff Mwanza, directeur général de l'agence de presse Vision Info. Jean-Jeff Mwanza, bonsoir.
Bonsoir Kémy et bonsoir aux auditeurs de la radio Capi.
Edmond Idrouba, journaliste à la RTVS 1, une télévision privée qui émet depuis Kinshasa et analyste politique. Il est aussi responsable des rédactions de plusieurs médias en ligne. Edmond Idrouba, bonsoir.
Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Je dis également bonsoir à tous les auditeurs de Radio Capi.
Baba Isaac Kalonji, journaliste et analyste indépendant. Il intervient depuis la ville de Mbujimayi. Baba Isaac Kalonji, bonsoir.
Bonsoir ma chère.
Merci de nous suivre partout en RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Et comme d'habitude, avant d'entrer dans le vif de notre débat de ce soir, jetons un coup d'œil dans les colonnes des journaux quinois pour voir comment la presse écrite a analysé les sujets retenus pour vous ce soir. La revue de presse avec vous, Guy Maté.
Bonsoir. La présentation du projet du budget exercice 2017 à l'Assemblée nationale par le Premier ministre, les sanctions contre certaines personnalités congolaises, ainsi que le séjour du chef de l'État à Kananga, continuent à défrayer la chronique. C'est ainsi que la référence plus évoquant les préoccupations des députés sur le budget 2017, titre « Controverse autour de la réplique de Bruno Tshibala ». Le quotidien de l'avenir, ex 24 novembre, affirme que sa recevabilité a été prononcée à la suite de la réplique controversée du Premier ministre aux questions et préoccupations soulevées par les élus du peuple lors du débat de mercredi dernier. Les journaux rapportent que le Premier ministre s'est refusé d'entrer dans le détail, mais il a rassuré les élus qu'il tiendra compte de tout ce qu'ils ont dit. Rigueur sur le front de maximisation des recettes de l'État, Bruno Tshibala brandit des sanctions, rapporte Forum des As. Désormais, les fraudeurs et les dirigeants incompétents seront sévèrement punis, précise ce quotidien, qui rappelle que par ailleurs, dans sa réplique hier aux doutes des députés qui ont jugé irréaliste le projet de loi des finances 2017, le Premier ministre sonne la fin des budgets ridicules en RDC. Projet de budget 2017, Tshibala n'a pas convaincu, estime le potentiel, qui annonce que dans la majorité présidentielle, tout comme dans l'opposition, ils sont nombreux à avoir dénoncé l'audace du Premier ministre qui frise l'impossible. Parlant des sanctions contre les personnalités congolaises, ce quotidien annonce que Washington sanctionne le général François Olenga. Sous le même chapitre, le palmarès note qu'après l'Union européenne, Washington a encore frappé Kinshasa. Quant aux réactions suscitées par ces sanctions, Forum des As titre « Sanctions européennes dirigées en cascade ». Les journaux précisent qu'au nom de la CIRGL et de l'UIA, le ministre angolais des Affaires étrangères se déclare choqué. Au sujet du séjour de Kabila au Kasaï, ces tabloïds rapportent que, arrivé mardi à Kananga, le raïs à l'écoute des populations éplorées du Kasaï. Merci, c'est la fin de cette revue de presse.
Merci Guy Maté pour cette revue de presse. Vous l'avez évoqué tout à l'heure dans ce journal de journaux, la visite du chef de l'État à Kananga, Joseph Kabila, est arrivé mardi dernier dans l'après-midi dans la province du Kasaï central qui a été secouée ces derniers mois par des violences meurtrières liées à un conflit de pouvoir coutumier. Joseph Kabila arrive à Kananga près de 10 mois après le début de la milice Kamuina Sapu. Edmond Idrouba, comment analyser ce déplacement du chef de l'État?
Moi, je crois que le chef de l'État a voulu d'abord se rassurer de la situation, je dirais, sécuritaire sur place. mais c'est aussi de faire un bilan. Je crois qu'avant son déplacement, le ministre de la Justice et des Droits Humains a dressé un bilan de tout ce qu'il y a eu comme tuerie dans cette contrée, mais aussi ces climats de paix qui règnent, je dirais, de manière temporaire sur l'espace Kasaï. Mais aussi, c'est un, je dirais, un pas pour rassurer également de l'avancement du processus électoral. Vous savez, les inquiétudes de la Commission électorale nationale indépendante avant de lancer les opérations électorales, il voudrait d'abord que le signal soit donné par les autorités compétentes. Et bien voilà, le président de la République est celui qui accepte de faire la tournée. Donc je crois que c'est un ouf de soulagement aussi pour les activités électorales, les opérations d'enrôlement, que ce soit pour des activités économiques où les opérateurs peuvent aussi profiter de la situation pour relancer leurs activités économiques.
Jean-Joseph Moisa, Joseph Kabila arrive à Kananga près de 10 mois après le début de la milice Kamuina Sapous. Une certaine opinion estime que c'est quand même tard d'y s'y rendre 10 mois après.
Après, je partage l'avis de ceux qui pensent que c'est tard parce que le chef de l'État ne devait pas attendre 10 mois. Nous savons que lorsqu'un chef se rend dans une partie du pays qui est pas sous menace, qui est dans des atrocités comme le cas de Kananga, ça pouvait quand même calmer un peu la situation. Mais s'il faut attendre 10 mois, il y a eu des morts, il y a eu des déplacés, il y a eu, n'est-ce pas, des maisons brûlées, et les conséquences sont tellement énormes, c'est alors que le chef de l'État se rend, comment nous allons appeler cela, est-ce pour consoler qui ont perdu les leurs, est-ce que c'est pour, n'est-ce pas, apaiser quelle situation, puisque nous savons que la situation n'est plus aussi grave. Qu'est-ce que le chef de l'État est allé faire sur place? Et ce qui fait aussi mal, c'est lorsqu'on sait qu'il est arrivé sur place et il s'est limité à Kananga pendant 48 heures ou 72 heures pratiquement. Il n'est pas allé à Chimbulu, il n'est pas allé à Chikapa, il n'est pas allé à Kazumba, il n'est pas allé dans les coins où, n'est-ce pas, la situation était pire pour pouvoir justement d'une manière ou d'une autre consoler cette population, redonner de l'espoir à cette population. Mais il s'est limité à écouter des notables qui certainement viendront pour lui donner pas vraiment la bonne information, mais juste pour saluer le chef de l'État, dire que nous avons été avec le chef de l'État. Mais derrière tout ça, qu'est-ce que l'espace Kasaï va, n'est-ce pas, enregistrer comme bénéfice après la visite du chef de l'État?
Baba Isaac Kalonji, vous intervenez depuis la ville de Mbujimayi. On apprend que le chef de l'État est arrivé cet après-midi dans cette ville.
Oui, je vous suis. L'information domine l'actualité. C'est une nouvelle phase, l'arrivée du chef de l'État qui est en séance avec toutes les couches de la population invitées pour être entendues et pour que le chef récolte la vraie information. Il se méfie des informations lui envoyées par les services différents qui sont dans la province. Il veut lui-même entendre le peuple parler. Il est bel et bien arrivé et son arrivée constitue une nouvelle phase.
Merci Baba Isaac Kalonji. Premier terme de ce soir, projet de budget 2017 jugé recevable. Le Premier ministre Bruno Tshibala a présenté mercredi dernier à l'Assemblée nationale le projet de loi des finances pour l'exercice 2017, évalué à plus de 11 000 milliards de francs congolais, soit près de 8 milliards de dollars américains. Le chef de l'exécutif a fait remarquer que ce projet trouvera des ressources grâce à la lutte contre la corruption, la fraude, l'évasion fiscale et douanière, ainsi qu'aux sanctions sévères contre les corrompus. Bruno Tshibala a souligné que 1,169 milliards de francs congolais sont prévus dans ce budget pour l'organisation des élections prévues pour cette année. Il n'y aura pas de développement en RDC dans l'injustice, la corruption et le désordre, affirmé Bruno Tshibala dans ses propos recueillis par Michel Kifinda.
Certaines personnes pourraient être tentées de qualifier d'irréaliste ce budget de recettes de la loi de finances 2017 en posant la question légitime de savoir où et comment l'État va trouver tout cet argent. Tout d'abord, la RDC possède un potentiel considérable en matière fiscale qui n'est pas capté par les administrations compétentes. Ce manque à gagner est le fait notamment de la corruption, de la fraude et de l'évasion fiscale. Un contrôle fiscal rigoureux, assorti de sanctions sévères et exemplaires, peut permettre de recouvrer l'impôt éludé. Il faut agir avec détermination et sans complaisance pour moraliser la vie publique, combattre la corruption, éradiquer les crimes et les indélicatesses économiques et prendre des sanctions sévères et exemplaires contre les coupables.
Jean-Jacques Moisa, je rappelle que vous êtes directeur général de l'agence de presse Vision Info. Comment vous appréciez ce projet de loi?
Un projet de loi ambitieux, quand on sait que son prédécesseur avait laissé un projet de loi qui était évalué pratiquement à 4 milliards de dollars, et lui vient avec un projet de loi qui, n'est-ce pas, environne les 8 milliards de dollars. Un projet ambitieux, surtout parce qu'il sait qu'il a, n'est-ce pas, comme mission principale, l'organisation des élections d'ici décembre de l'année en cours. Mais la question qu'il faut se poser, c'est que est-ce un projet de loi réaliste, c'est réalisable, puisque nous savons que avoir un projet de loi, c'est un problème, mais mobiliser le recette aussi, c'est autre chose.
Et vous, vous estimez qu'il est réaliste ou pas?
Oui.
Vous estimez que ce projet de loi est réaliste ou pas?
À mon avis, je pense que c'est un projet de loi qui est loin d'être réaliste, parce que il y a eu des projets de loi pareils, mais qui n'ont pas été, qui n'ont pas atteint ne plus que 70% dans son exécution. Est-ce que on donne des chiffres par sentiment? Est-ce qu'on donne des chiffres tout simplement parce que on veut dire qu'on est prêt à faire mieux que les autres, ou tout simplement parce que nous disons que nous voulons exister? Je pense que ce projet de loi est loin d'être réaliste quand on sait qu'il y a encore plusieurs priorités. Nous savons comment le franc congolais aujourd'hui est en baisse vis-à-vis des dollars. L'économie du pays a un sérieux problème. Dans les entreprises publiques, n'est-ce pas, qui ont en charge, n'est-ce pas, la maximisation des recettes, je vais parler de la DGI, la DGDA et compagnie. Nous savons comment est-ce qu'ils sont devant des difficultés énormes quand il s'agit de mobiliser les recettes. La corruption est en train de battre son record, voulais-je dire. C'est en tout cas un budget qui est loin d'être réalisé, et vous verrez même que lorsqu'il faudra faire, n'est-ce pas, le contrôle à la fin, on vous dira qu'il n'a pas été atteint même à 70%.
Il y a Edmond Izouba, journaliste à la RTVS 1, télévision privée, qui émet depuis Kinshasa et analyste politique. Vous êtes aussi responsable de rédaction de plusieurs médias en ligne, près de 8 milliards de dollars. Vous pensez que c'est suffisant pour permettre au gouvernement Tshibala de relever les différents défis, entre autres les élections, le social des Congolais, ainsi que la sécurité?
Voilà les vrais débats. Moi, j'aimerais qu'on reste vraiment dans le fait quand on est en train de critiquer un document aussi de la taille d'un budget national. Vous aviez suivi lui-même, Monsieur le Premier ministre, qui a commencé juste à l'entrée, à l'introduction de son budget, pour donner le contexte dans lequel il se trouve. Donc, nous sortions d'un accord qui a été validé par les acteurs politiques, un gouvernement de consensus. Ça veut dire que actuellement, le gouvernement fait une sorte de jumelage entre les deux acteurs des différentes entités politiques. Donc, c'est dans ces contextes-là. Après, vous avez ce qu'on appelle le gouvernement des missions. Il est là pour accomplir une mission bien précise. Il n'est pas là pour faire de la complaisance. Alors, quand le Premier ministre présente un budget qu'il estime qu'il viendra maximiser la recette. D'abord, je dois rappeler à Jean-Joseph Mwanza que le budget, de manière factuelle, devait s'augmenter en lui-même parce que le budget a été calculé sur base de 1,45 francs congolais. Donc, on a tenu compte de la hausse du dollar américain. Et puis, en plus de cela, vous avez ce qu'on appelle les axes prioritaires. Vous avez parlé de l'organisation des élections où le Premier ministre accorde plus de 600 millions de dollars américain pour organisation des élections, mais avec une production locale, c'est-à-dire l'argent ou les recettes proviendront de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas une promesse, c'est de l'argent qui sera produit en République démocratique du Congo.
D'ici vous avez décembre, également, vous pensez que le gouvernement pourrait réunir ce montant pour organiser les élections, parce qu'on a suivi Bruno Tshibala qui a promis d'organiser 3 scrutins à la fin de cette année.
À moins que le problème technique du côté de la centrale électorale lui oppose. Mais sinon, j'estime, pourquoi pas lui accorder cette chance aussi longtemps, parce que les gens relèvent aussi une immaturité politique en lui, mais je n'estime pas que ça soit vraiment le cas, parce que s'il y a la volonté et que Bruno Tshibala estime qu'il n'aura pas de mains liées en soi pour sanctionner tel que je viens de suivre tout à l'heure, les auteurs de détournement, les auteurs également de fraude dans les régies financières. J'estime qu'il faut lui accorder cette chance. Il a parlé de l'autorité de l'État, c'est-à-dire arriver à organiser ou à impliquer dans la tête des dirigeants de ce pays le civisme fiscal, parce que l'ensemble de ces recettes de Bruno Tshibala se base autour des la rigueur qu'il va imposer dans des régies financières. Il y a aussi le problème social. Moi, j'ai dit, c'est là où le problème de budget, c'est là où il y a même, des erreurs. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce que le Premier ministre a eu à élaborer ses budgets avec de grandes erreurs sur le plan social quand il dit que l'enveloppe salariale où il y aura une augmentation de 9%. Moi, j'ai dit, il ne devrait pas y avoir l'augmentation de 9% si le budget a été calculé sur base de 1,45 francs. Il devrait surtout avoir une augmentation de 50%. Quand on sait que le salaire des fonctionnaires de l'État est basé sur le taux de 93. Donc quand vous prenez, vous quittez 93 jusqu'à à 1450, vous vous rendez compte que l'augmentation, je dirais de manière réelle ou de manière nominale, devait aussi s'augmenter à lui-même. Ce n'est pas une offre qu'il vient, ce n'est pas aussi une augmentation qu'il fait des forces, mais c'est une augmentation, je dirais, naturelle par rapport à la hausse de prix sur le marché par rapport à la hausse du taux de dollar.
Baba Isaac Kalongi, journaliste et analyste indépendant, vous intervenez depuis la ville de Mbujimayi. Le chef de l'exécutif a fait remarquer que ce projet trouvera des ressources grâce à la lutte contre la corruption, la fraude, l'évasion fiscale et douanière, ainsi qu'aux sanctions sévères contre les corrompus. Qu'est-ce que vous en pensez?
Estimé consoeur, je suis content de cette question qui est une préoccupation même dans ma province. Les latinistes se disent « Puri vis pacem parabellum ». Celui qui veut aller loin ménage sa monture. Celui qui veut la paix prépare la guerre. Bruno Tshibala a tenu un discours valable. Mais il y a une différence entre le dire et le faire. Parce que Luzolo Bambi, conseiller en matière de bonne gouvernance auprès du chef de l'État, a dénoncé les torts causés à l'économie congolaise, causés au social congolais. Aucun de tous ceux qui ont été cités par le conseil du chef d'État n'a été puni ni sanctionné. Bruno Tshibala reprend les mêmes propos en disant qu'il va s'occuper de tous les détourneurs, tous les prédateurs, voleurs, pierres, tous ceux qui se sont enrichis illicitement et qui ont blanchi leurs capitaux, ils seront attaqués par Bruno Tshibala. Est-il capable de le faire et dans quel pays? Ça, c'est la première préoccupation qui me gêne quand je vous parle. Et Bruno Tshibala, vous savez de quelle tendance politique il vient. Qui va l'écouter présentement sur terrain quand il va tenir le discours voulant enlever tous ceux qui sont au poste de commande dans la maximisation des recettes de l'État, il va les enlever, lui, parce qu'ils ont détourné hier, ils ont volé, il les enlève pour nommer les nouveaux. Mais qui peut le lui permettre? Donc, c'est un discours qui ne tiendra pas debout. Je suis content que vous m'ayez posé cette question.
Alors, Baba Isaac Kialongi, un budget qui enregistre un accroissement de 68% par rapport au budget de 2016, ce qui est une bonne chose. Mais lors du débat, on a suivi certains députés qui ont relevé le fait que le texte n'indique pas les différentes sources de financement.
Maman, il y a un problème que vous devez... Pour ceux qui ont fait la comptabilité, vous savez que le budget, là, ce sont des prévisions. Ce sont des estimations. Ce n'est pas l'argent réel sur la table. Donc, les estimations et les prévisions nécessitent un combat dur pour réaliser ces recettes et les disponibiliser et les mettre à la disposition du gouvernement Tchibal. Mais comment vous parlez d'un budget qui n'est qu'une prévision? Ça, c'est un. Deuxièmement, lorsque Tchibal va se mettre au combat, au front, pour réaliser les chiffres qu'il a avancés, 11 000 milliards de francs congolais, ça constitue à peu près 8 milliards de dollars américains. Mais si tous les gouvernements qui l'ont précédé n'ont jamais réalisé ce chiffre, comment lui va-t-il le faire dans la crise? Vous savez que Matata Ponyo est parti avec le discours macroéconomique dur, sans atteindre ce chiffre. Comment lui, Bruno Tshibala, qui vient de l'opposition, peut réaliser ce chiffre présentement avec le comportement des gestionnaires des groupements qui font la maximisation des recettes de l'État? Il le sait. L'échéance qu'on lui donne ne lui permet pas de réaliser ces chiffres. Donc, des prévisions à la réalisation des chiffres, il faut le faire. C'est une dimension que les gens doivent maîtriser, surtout ceux qui suivent la fréquence de la paix.
Jean-Jacques Manz, est-ce que vous êtes en ligne?
Je suis en ligne.
Beaucoup de gens sont quand même sceptiques quant à la capacité de mobilisation des recettes, surtout quand on tient compte du faible taux de réalisation des budgets précédents.
Exactement. Moi aussi, je suis sceptique parce que nous savons qu'aucun budget n'a été réalisé à 100% depuis le gouvernement d'Izenga jusqu'à aujourd'hui. Le rapport de la Cour des comptes l'a toujours, n'est-ce pas, indiqué. Et nous ne savons pas par quel moyen le gouvernement Tshibala, qui va d'ailleurs travailler sous pression. Nous sommes à 6 mois des élections. S'il faut ne pas se tenir à l'accord dont il est question, puisque Edmond Izouba a parlé, mais pendant qu'il va travailler sous pression, sera-t-il en mesure de mobiliser les recettes? Est-ce que les régies financières vont l'aider justement à pouvoir atteindre, n'est-ce pas, la réalisation ou la mise en place de ces projets qui est aussi ambitieux, comme je l'ai dit au départ? C'est bien bon, ça nous fait plaisir lorsque nous savons que nous venons de 4 milliards laissés par Matata à 8 milliards. C'est bien bon lorsqu'il dit que les salaires des fonctionnaires seront revue à la hausse, n'est pas, on parle des 20 000 francs congolais qui seront ajoutés aux fonctionnaires, aux enseignants, tout ça, ça fait plaisir, bien bon. Mais le plus important dans tout ça, c'est qu'on ne se limite pas seulement à l'ambition de voir les salaires des fonctionnaires revus à la hausse, qu'on ne se limite pas, n'est-ce pas, à cette vouloir, cette volonté et amener le budget de 4 milliards à 8 milliards. Mais quels sont les mécanismes que Bruno Tshibala et son gouvernement comptent, n'est-ce pas, mettre en place pour que les régies financières qui ont la charge de mobiliser leurs recettes pourront justement, n'est-ce pas, mettre en place pour que cela soit réalisable? Est-ce que aujourd'hui, j'avais suivi les débats à l'Assemblée nationale, il y a par exemple le député national Michel Legolas de Félicité qui a montré comment, si le gouvernement prenait en compte les secteurs miniers, on sera en mesure, n'est-ce pas, de booster le budget national, ce qui n'est pas du tout possible quand on sait que les contrats léonais dans ce pays, ce n'est plus un secret pour quelqu'un, pour le peuple, pour les députés nationaux, pour les décideurs. Est-ce que ça sera possible? C'est là où nous sommes en train de nous poser justement des questions.
Edmond Izouba, certains parlent de budget fiction, étant donné que depuis 2012, aucun gouvernement n'a pu mobiliser des recettes au-delà des 4 milliards de dollars en 6 mois. Est-ce que le gouvernement Tshibala pourrait vraiment réaliser 8 milliards de dollars quand on connaît le contexte économique dans lequel le pays se trouve?
Moi, je crois qu'il faut plutôt que nous puissions lui accorder la chance, hein, accorder à Bruno Tshibala la chance d'abord de pouvoir travailler, de commencer quelque part, au lieu de commencer à les critiquer pendant qu'il n'est pas encore à l'action. Si aujourd'hui, peut-être on est pressé à les critiquer, Tshibala arrive effectivement à sanctionner ces responsables de régie financière qui sèment le trouble et le désordre administratif. Est-ce que cela ne pourra pas être favoriser son budget ou favoriser leurs recettes? Moi, je crois que il faut rester quelque part dans le fait. J'ai commencé ici à l'introduction à dire que le budget a été calculé sur base des 145 francs congolais. Donc, vous avez également, au-delà de ça, la hausse des prix des matières premières sur le plan mondial. Ça commence maintenant à monter. Vous avez l'augmentation également de la production minière en République démocratique du Congo. Vous avez également le prix du pétrole qui a commencé à prendre de l'ascenseur. Je crois que vers la fin de l'année, on pourra retrouver la stabilité économique sur le plan mondial. Donc j'estime que à ces niveaux, commencer à critiquer Tshibala aussi longtemps qu'il n'est pas encore à l'action, c'est avoir, anticipé quelque part son échec. Vous devez vous rappeler à l'époque où Tshisekedi, Étienne, était nommé Premier ministre. Beaucoup pensaient, avaient également des pensées pessimiste en croyant que Tshisekedi, à peine arrivé, à peine nommé Premier ministre, est-ce qu'il arrivera, est-ce qu'il atteindra ses objectifs? Nous avons vu comment les gens ont déposé le bien mal acquis. C'était à l'Assemblée nationale, au Palais du Peuple, c'était filmé, tout le monde le voyait. Si aujourd'hui la même rigueur revient, apparemment tout le monde est au courant que l'argent est détourné dans ce pays, tout le monde sait que les taxes ne sont pas payées, mais personne ne veut favoriser à ce que l'argent soit dirigé vers les trésors publics. Moi j'estime qu'il faut d'abord mettre à l'esprit, il faut d'abord rester, je dirais, optimiste à ce niveau et lui accorder la chance. Peut-être il pourra être différent, et surtout qu'il vient de l'opposition, ça veut dire qu'il comprend mieux le problème des Congolais et la souffrance des Congolais.
Baba Isaac Kalonji, il faut laisser la chance à Bruno Tshibala, comme vient de le dire Edmond Izouba. C'est trop tôt de le juger.
Non, je veux dire que je laisse le temps au temps, connaissant Bruno Tshibala individuellement, je laisse le temps au temps. Mais je ne peux pas ne pas lui dire la vérité que le pays souffre d'une manière bizarre du point de vue des recettes venant des structures de l'État telles que DGI, DGRAD et même douane. Mais mon problème n'est pas là. Mon problème, c'est que si on n'a pas puni ceux qui ont détourné hier, mais ils continuent à gérer, ils vont gérer avec Tshibala de quelle manière? Puisque ce sont des mêmes détourneurs qui sont reconduits. Je n'ai jamais entendu parler d'un directeur général de la DGRAD révoqué ou d'un directeur général de la douane révoqué. Mais le président de la République a réclamé en 2006 15 oiseaux rares pour qu'il gouverne le pays avec aisance. A-t-il déjà trouvé ces 15 oiseaux rares? Et s'il n'en a pas trouvé, ceux qui sont en poste maintenant aujourd'hui, peuvent-ils aider Tshibala à gouverner? Je pense que non.
Merci Baba Isaac Kalonji. Deuxième et dernier thème de ce soir. L'Union européenne a adopté lundi dernier des sanctions à l'encontre de 9 personnalités de la République démocratique du Congo. L'Union européenne a sanctionné 9 personnalités de la RDC, parmi lesquelles des ministres et des gouverneurs en fonction, de hauts responsables de l'armée, le directeur de l'Agence nationale de renseignement, ainsi qu'un chef milicien. Mais qui sont-elles et que leur reproche-t-on? La réponse avec vous, Dona Madimba.
Sur les 9 cités, Lambert Mende est le seul dont les griefs ne semblent pas directement liés à du sang versé. L'Union européenne le considère certes avec le directeur de l'ANER comme parmi les personnes qui gênent la construction d'un climat consensuel et pacifique pour la tenue des élections en RDC, tout comme l'UE lui reproche aussi une politique de répression des médias, notamment étrangers. Kyungu Gédéon, lui, fiché chef de guerre et de milice, est tenu pour responsable de graves violations des droits de l'homme, dont les exécutions des civils et crimes de guerre. Les deux gouverneurs, Kande et Kazembe, sont pointés du doigt pour usage disproportionné de la force, responsable des violations des droits de l'homme en les planifiant, les dirigeant ou les commettant, tout comme Évariste Boshab et Emmanuel Chadari, désignés responsables des violations commises par les forces de l'ordre, puisque l'un et l'autre ont dirigé pour le cas de Boshab et dirigent actuellement pour le cas de Chadari, la police du pays. Mohindo et Ruorimbire sont responsables des exactions des soldats sous leur commandement dans les opérations sur terrain. Mohindo, par exemple, on lui reproche en plus le recrutement d'anciens combattants d'une milice locale ayant abouti à des massacres. Kalev Moutonde, lui, enfin, on lui reproche aussi arrestation, détention, voire sévices contre les opposants civils et membres de la société civile.
Hier jeudi, les États-Unis d'Amérique ont placé sur la liste noire financière le chef des gardes rapprochés du président de la République pour entrave à la démocratie. À la tête de la maison militaire qui supervise la garde républicaine, le général François Olenga est accusé par Washington d'avoir sapé le processus démocratique dans le pays plongé dans la crise depuis le maintien au pouvoir de Joseph Kabila après l'expiration de son mandat en décembre. Jean-Jeff Moisa, directeur général de l'agence de presse Vision Info. Quelle analyse vous faites de ces nouvelles sanctions?
Pouvez-vous me permettre en 30 secondes de dire un mot sur le sujet précédent par rapport à ce qu'a dit Edmond Izouba?
30 secondes.
30 secondes. J'ai comme l'impression que mon confrère ne m'a pas très bien compris. Je ne critique pas Bruno Tshibala, mais nous invitons plutôt Bruno Tshibala à passer à l'action. C'est bien bon d'avoir un budget ambitieux, mais il faut plutôt qu'il se saisisse, n'est-ce pas, des régies financières qui ont l'obligation de mobiliser des recettes, qu'il ne puisse pas tout simplement tenir des bons discours auxquels on nous a souvent habitués dans ce pays. On a eu des budgets au-delà même de 8 milliards, mais qui n'ont jamais été réalisés, même ne serait-ce qu'à 70%. Alors, s'agissant de
des nouvelles sanctions,
en tout cas, pour ce qui me concerne, je n'ai jamais fait confiance à ces sanctions. Moi, je considère, n'est-ce pas, cela comme de la simple mise en scène. Je considère cela comme des situations qui n'apportera absolument aucun changement dans le quotidien de la population. Et même sur la marche de la République. Kanyama était sanctionné, il est resté le même. Il y a eu, n'est-ce pas, Yerodia Abdoulaye Ndombassi, qui avait été sanctionné avant l'époque, avant l'assassinat de Moïse Laurent-Désiré Kabila. Cela n'avait apporté absolument rien sur le vécu de la population. Et si je vais un peu au-delà de nos frontières, il y a Robert Mugabe avec son pays qui ont eu plein de sanctions, mais ça n'a pas fait que Mugabe quitte le pouvoir. Il est toujours là jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait de sanctionner le régime de Kinshasa qui sera une pression pour l'organisation des élections ou qui fera que le misèlement de l'opposition, s'il faut le dire, soit réduit. Qui fera que la liberté d'expression, si aujourd'hui on parle, n'est-ce pas, qu'on dit qu'elle n'est pas respectée, que ces sanctions qui feront que la donne change, ce ne sont pas ces sanctions qui feront que Lambert Mende ne passe plus dans les médias pour défendre les intérêts, n'est-ce pas, de son gouvernement. Ce ne sont pas ces sanctions qui feront que si l'opposition organise une manifestation, que Kanyama ne descende pas sur terrain pour justement réprimander le délinquant, s'il faut, n'est-ce pas, emprunter ces mots. Je pense que la communauté internationale devrait faire mieux. La communauté internationale devrait plutôt accompagner la RDC dans l'exécution, justement, de ce que nous appelons l'accord du 31 décembre. Qu'est-ce que l'accord
prévoit? En quoi faisant, par exemple?
Lorsque nous savons tous que cet accord prévoit ça et ça, et que le gouvernement en place ne l'a pas fait, qu'est-ce que la communauté internationale doit faire? L'accord prévoit, je sais que la résolution des Nations Unies a prévu, n'est-ce pas, les bons offices de la MONUSCO dans cette histoire. La résolution des Nations Unies a prévu que les Nations Unies puissent, n'est-ce pas, aussi s'interposer. Mais lorsque aujourd'hui, c'est là aussi je pense que la classe politique congolaise a sa part dans ces histoires. On a demandé les bons offices de la MONUSCO. Lorsque la MONUSCO y va pour donner ses bons offices, on l'accuse de corrompu. C'est là où je me demande, qu'est-ce qu'on attend d'elle? Fallait-il que la MONUSCO ne puisse pas accepter la nomination de Bruno Tshibala de manière officielle? La MONUSCO dise que nous n'allons plus œuvrer en RDC parce que Bruno Tshibala a été nommé Premier ministre. Nous attendons que tel autre, Félix Tshisekedi, soit nommé Premier ministre avant que nous puissions l'accepter. Qu'est-ce qu'il fallait que la MONUSCO fasse? En tout cas, il y a à boire et à manger là-dessus. Mais à mon avis, les sanctions ne rassurent pas. Les sanctions ne vont rien changer dans la marche de ce pays.
Edmond Izouba, journaliste à la RTVS 1, télévision privée qui émet depuis Kinshasa, analyste politique. Vous êtes aussi responsable des rédactions de plusieurs médias en ligne. Vous pensez aussi que ces sanctions ne serviront à rien?
Si vous pouvez permettre de... revenir en arrière. Hein,
30 secondes. On n'a plus beaucoup de temps.
Oui, juste deux phrases. C'est-à-dire les conséquences des projections budgétaires non appliquées. Je crois que ça pourra donner des retombées. Ça pourrait, je dirais, faire l'objet des tensions sociales qui viendront peut-être s'ajouter dans la crise actuelle. Bruno Tshibala doit faire très très attention avec tout ce qu'il a donné comme argument à l'Assemblée nationale. Il doit maintenant passer à l'acte pour concrétiser son action. Je rentre maintenant dans les sanctions. Je salue fermement ces sanctions, que ça vienne de l'Union européenne ou des États-Unis d'Amérique, parce que on voit venir finalement vers le responsable. Vous avez vu que ces sanctions ont commencé quelque part, et maintenant c'est la maison militaire du chef de l'État. Donc, nous faisons face actuellement à un régime pratiquement vacillant qui a longtemps fait souffrir la population congolaise qui, malgré ce qu'il a, madame, vous savez ce qui s'est passé à la prison centrale de Makala, beaucoup se demandent aujourd'hui pourquoi les gens sont sortis, mais moi j'ai eu à faire une petite enquête, je dirais mini-enquête, dans la prison centrale de Makala. Allez-y vous renseigner combien de nos militaires ont fait arrêter abusivement, arbitrairement les gens qui étaient à la prison centrale de Makala. Combien étaient de nos autorités ici qui ont envoyé des gens à Makala sans passer par le parquet, par un tribunal, sans pour autant être même entendu par un PV d'un OPJ. Donc je trouve ça, les sanctions, je les salue et que j'ai préfère d'ailleurs que cela puisse être continuel en même temps. Ce n'est pas un acharnement, vu que il faut même pas parler de la RDC, parce que la population congolaise n'est pas concernée, les institutions de la République n'est pas concernée dans ces sanctions. Ce sont des sanctions individuelles, des gens qui ont commis des tels actes qui sont sanctionnés pour tel fait. Donc je crois que dans cet allure là, c'est bien que les institutions aussi gardent leur autonomie. Donc, j'étais en train de donner aussi une phase négative par rapport au déroulement des activités politiques en RDC, parce que l'opposition a toujours tendance à se réjouir quand il y a des sanctions pareilles qui, en réalité, ne relèvent pas une dynamique interne. Vous savez, il n'y a pas aujourd'hui un effort entrepris dans la classe politique pour aider cette population à aller vers des revendications que je dirais légitimes. Vous avez plutôt des individus qui s'accaparent de tout leadership, qui pensent que tout doit passer par eux. Vous avez aujourd'hui, nous n'avons plus Etienne Tshisekedi, nous avons tendance à constater qu'il n'y a plus des activités politiques ni des manifestations.
Merci.
Or, si aujourd'hui la population, la masse avait cette idée de revendiquer à chaque fois que ces droits sont violés, je crois que cela ne relèverait pas d'un individu plutôt que d'une dynamique interne.
Merci Edmond. Baba Isaac Kalongi, journaliste analyste indépendant, vous intervenez depuis Boujimaï. Quelle est votre lecture de ces nouvelles sanctions?
Ma sœur, ma chère sœur, pour ceux qui n'ont pas lu, pour ceux qui ne sont pas habitués à lire, la charte des impérialistes prévoit en son article 5 et 7 que quand l'Afrique et le tiers-monde seront indépendants, nous mettrons au pouvoir les dictateurs qui épargneront leurs avoirs chez nous. Je ne trouve pas dans ces sanctions-là une capacité de nuire à ceux qui ont gardé leur argent ailleurs. Quand on reproche les autres pour l'entrave à la démocratie, l'entrave à l'expression libre, manifestation ou liberté de presse, ce sont des sanctions normales. Mais quand on dit gel des avoirs, ma très chère amie, je te dis sincèrement, le gel des avoirs ne te concerne pas, ne me concerne pas, ne concerne pas le public congolais. Le concerne ceux qui ont épargné leurs avoirs dans des banques de l'espace Schengen. Donc, ça ne nous concerne pas. Donc, c'est l'argent volé ou blanchi, gardé ailleurs, en Europe. Ce n'est pas notre affaire. Maintenant, quand on gèle ces avoirs-là, ça préjudicie les individus qui ont gardé l'argent là-bas. Ils avaient leur pays, ils ont une banque centrale, ils ont les banques commerciales, ils n'ont pas gardé l'argent chez eux. Donc, concernant les sanctions en rapport avec la démocratisation, avec le processus de paix, et avec l'insécurité, les sanctions sont normales. On ne les fait pas pour tout simplement contraindre les personnes ciblées ou citées à changer. Mais on les fait pour aider le pays à aller dans le sens de la démocratisation sans entrave. Présentement, les sanctions sont d'une part pour plaire à l'opinion internationale qui a accepté que l'argent soit gardé chez elle. Et d'une part, pour montrer aux Congolais que vous êtes naïfs, vos frères qui sont au pouvoir vous volent l'argent et gardent chez nous. Donc, c'est ça l'information que nous devons, à partir de la fréquence de la paix, donner à la base pour expliquer comment les sanctions sont tombées sur nos hommes, et nos dirigeants, nos frères et sœurs qui sont au pouvoir.
Merci Baba Isaac Alongi. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Vous allez répondre brièvement à cette dernière question. Jean-Jeff Mwanza, quel sens le gouvernement congolais devrait donner à ces sanctions? Devrait-il les considérer ou carrément les banaliser? En 10 secondes.
En 10 secondes, je vais demander au gouvernement congolais de se mettre tout simplement au travail, puisque comme a dit Baba Isaac, ce sont les sanctions qui concerne les individus et non le pays. Donc, ce que le gouvernement a à faire, c'est de s'occuper du pays et non de se laisser emporter par des distractions.
Edmond Inzouba, il faut les considérer ou les banaliser?
Non, le gouvernement, vous devez d'abord comprendre que nous avons à sa tête un Premier ministre de l'opposition. Il doit quand même démontrer son efficacité dans l'agir. Il doit ouvrir des dossiers judiciaires, moi j'estime, sur base de ces sanctions pour enquêter sur ces individus-là. Ça donnera un signal fort pour les détourneurs qu'il veut sanctionner prochainement.
Baba Isaac Kalonji.
L'accord du 31 et la résolution 2348 sont opposables à tous les Congolais, toutes tendances confondues. Appelons nos frères à respecter ces deux textes.
Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci aux confrères d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Jean-Noël Mukondo qui était à la prise de son, Guy Maté à la réalisation. Au micro, Kéline Kouté, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.